Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux en ce jour férié le matin. On est impressionnés. Je suis donc en compagnie de Sabrina Calvo, autrice de romans et de jeux vidéo, et de Jeanne Rousseau, qui dirige le studio Spiders et qui en fait également l'écriture, enfin qui fait l'écriture sur la plupart des jeux. Et pour parler de l'écriture de l'altérité, alors c'est un sujet extrêmement vaste. Dans le jeu vidéo, on se pose souvent cette question puisqu'on met en scène beaucoup de personnages, mais c'est vrai aussi dans tous les arts impliquant la narration, on va intégrer des personnages. C'est la question qui se pose, c'est comment on vient se projeter dans la peau d'un autre pour essayer de l'écrire d'une manière juste ou sinon juste, au moins intéressante dans l'œuvre que l'on produit. Donc voilà. Donc Jeanne, je vais peut-être te laisser commencer sur ce sujet.
Ah oui, donc en fait, pendant que Sabrina continue ses recherches, que... merci. Donc c'est un sujet qui nous touche, je pense, relativement... qui est pour moi extrêmement important, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait un peu proposé avec Sabrina pour ces utopiales. Dans le cadre du jeu vidéo, j'ai dû écrire des dialogues de morts-vivants, d'aliens, enfin de créatures extraterrestres, mais aussi des dialogues d'hommes, des dialogues de personnes ayant des sexualités différentes de la mienne, des personnes racialisées aussi, et à chaque fois. Alors dans le cas d'Alien, bon, on risque pas de vexer grand monde, a priori pour l'instant en tout cas ils sont pas venus nous envahir pour se plaindre, mais dans le cas de personnes qui sont en plus issues d'une minorité, il y a une justesse à essayer d'atteindre si on veut essayer d'avoir un propos qui soit ni insultant, ni simplement blessant, et si en plus on veut rendre justice autant que possible à ces personnages. Alors bien sûr, ça reste des personnages, et c'est pas des vraies personnes, mais ça demande une forme de gymnastique intellectuelle, et surtout, je pense, d'écrire pas seulement avec son cerveau, mais aussi avec son empathie, comme moteur d'écriture, et d'être capable de se projeter effectivement dans des gens qui sont complètement différents, qui ont des parcours différents aussi. Ça peut être aussi écrire des personnes âgées, par exemple. C'est toute cette capacité en fait à essayer de donner des mots justes à des personnages qui vont être très différents de nous. Alors on espérait en fait, en proposant ce sujet, qu'on aurait effectivement des gens qui viendraient par exemple du cinéma, de la bande dessinée, enfin d'autres médias. Au final on est deux personnes issues du jeu vidéo, ou pas que, dans le cas de Sabrina. Et c'est vrai que bon, sur un jeu, on écrit des centaines de personnages. Pour certains, bon, ils ne représentent pas grand-chose en termes d'écriture. C'est des personnages qu'on va juste apercevoir, des PNJ. Ça va être un soldat qui défend une porte. Ça va être un marchand qui essaye de refourguer sa camelote. C'est pas des personnages sur lesquels on va forcément s'arrêter et sur lesquels le joueur va se poser des questions et se demander si ces personnages sont crédibles. Ils sont juste là pour remplir un rôle. Mais dans le cas de personnages qui vont être effectivement un peu plus développés, moi je développe des jeux de rôle, donc forcément on s'attend à ce qu'il y ait une certaine forme d'incarnation dans certains personnages. Ça demande effectivement de se mettre à la place de ces personnages, et moi au bout d'un moment je vis avec eux en fait. Je me rends compte que je me projette tellement dans les personnages que je deviens eux, ou qu'ils sont là quelque part dans ma tête en permanence. Et quand on passe des mois à écrire un personnage et à écrire un jeu, effectivement on se met à être un peu habité en fait par tous ces bonhommes qu'on va avoir dans la tête, et c'est un peu la limite de la schizophrénie quand même, mais c'est aussi assez passionnant. Et moi j'en viens à avoir énormément de tendresse en fait pour ces personnages, à avoir pour certains, y compris des méchants, hein, des personnages qui sont absolument abjects, pour avoir finalement un rapport presque maternel avec eux.
Bah merci d'être venu, c'est cool. Moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, je vais essayer d'offrir une perspective un peu différente. Non, mais c'était très juste. Voilà, il y a les mots-clés, l'empathie, machin. Moi, je vais vous raconter comment j'en suis venu à créer des trucs, en fait. Et parce que, finalement, tout est personnage, quoi. Même si on a on est plus ou moins dans l'imaginaire, on va dire, dans des choses qui se frottent avec l'idée plus qu'avec l'angoisse ou le fait d'être humain ou quoi que ce soit, même si ça peut exister. Des fois, on critique la SF et on critique l'imaginaire, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la littérature, la bande dessinée, d'être du papier, ce qu'on appelle paper thin characters, vous savez, les personnages papier cigarette, quoi. Et je me suis toujours demandé pourquoi il était impossible d'atteindre une forme de profondeur, de très grande profondeur dans les personnages en science-fiction, etc. Et c'est vrai que c'est assez rare, en fait, de trouver des personnages qui ont beaucoup, beaucoup d'épaisseur comme ça. Et alors, bon, donc, avant d'arriver peut-être là, je vais vous raconter comment moi j'en suis arrivé à créer des trucs. Et c'est que quand j'étais môme, je devais avoir entre 8 ans et 10 ans, mon obsession c'était les monstres. Et tout ce que je voulais c'était me faire bouffer par des monstres. Et j'écrivais des histoires où on se faisait bouffer par des monstres tout le temps. Non, mais vraiment. Et ma première bande dessinée s'appelait Barracuda. C'était donc une adaptation d'un film de merde de 1981, je crois, qui s'appelle Barracuda, justement, sur un barracuda qui mange des gens. Et du coup, c'était juste un barracuda, quoi. Et moi, j'envisageais que le barracuda soit vachement plus gros et pouvait carrément, parce que mes parents allaient au Club Med à l'époque, et j'envisageais le barracuda qui pouvait monter sur les plages du Club Med et manger les gens directement sur la plage. Et je me suis dit, wow, c'est super, ça, c'est cool, qu'est-ce que ça pourrait faire? Je me projetais pas du tout dans le barracuda, même si après, plus tard, j'ai eu envie de me projeter dans le barracuda. Parce qu'un barracuda, c'est quand même assez intéressant. Mais du coup, je me projetais sur la façon dont les gens allaient mourir sur la plage. C'est très intéressant. Comment se faire bouffer, en fait? Et c'est quelque chose qui m'est vraiment, vraiment, qui m'a obsédé pendant des années. Je rêvais en train de me faire bouffer par des requins. Et je voyais le requin qui était là, de me bouffer complètement, et tout qui partait, là. Et je voyais sa grosse tête et son œil noir. Je regardais dans son œil noir et je lui disais, mais est-ce que tu comprends ce que je ressens, quoi? Requin. Non, c'est vrai tout ça. Et du coup, ce que j'ai voulu mettre, quand j'ai commencé à dessiner et à écrire des trucs, ce que j'ai voulu mettre, c'était l'horreur de la mort bouffée, quoi, mangée vivante. Et tous les jours, je ne pensais qu'à ça. Et je me suis vue morte, mais mangée vivante, mais je ne sais pas, pendant des années, jusqu'à mes 12 ans, peut-être 13 ans, tout le temps. Et partout, par des fourmis, par mes parents, par moi-même. À cette époque, moi, j'étais très influencé par les films. À cette époque-là, il y avait un film qui s'appelait Anthropophagus, et c'était l'histoire d'un mec qui se mangeait lui-même, qui finissait par se manger lui-même tellement il avait faim. Et il était cannibale. C'est un bon film de bonne grosse merde aussi. mais il est sympa, un film italien, bon, il y en a pas mal. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit, ça c'est cool, parce que j'ai un pouvoir. Là, j'ai le pouvoir de mourir tous les jours. Et j'ai le pouvoir de mourir de toutes les manières possibles et imaginables. Alors, au-delà de l'idée comme quoi, dans la philosophie orientale, on peut dire, oui, alors si tu t'imagines mourir 100 fois par jour, alors ça va te renforcer, je sais pas, c'est dans le Hagakure, je crois. Au-delà de ça, ça m'a appris à comprendre la douleur de l'autre, en fait. Et alors, c'est très compliqué de comprendre la douleur de l'autre. Alors, je vous ai l'impression que je fais un grand détour, mais vous allez voir, je vais arriver à quelque chose de très important. Ça m'a fait comprendre qu'en fait, la douleur, c'est très difficilement partageable. Quand on dit j'ai mal, moi, je vous dis j'ai mal, vous n'êtes pas forcément... Vous comprenez que j'ai mal, mais vous ne savez pas comment j'ai mal. Et moi, comment je vous dis que j'ai mal? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de se faire enfoncer des dents dans le ventre par un requin, quoi? C'est quoi ces pointes qui sont un peu sciées sur le côté, qui partent dans l'estomac, qui font gicler du sang là, alors ça fait mal là, mais alors le bras du coup il est bloqué, et puis un bout d'os qui part. Enfin, je veux dire, il faut rentrer vraiment dans les détails pour raconter comment on se fait déchiqueter par une mâchoire, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de communiquer la douleur. Et cette difficulté, tout en sachant que moi je peux établir un contact avec vous direct, sensible, en vous disant j'ai mal. Je me suis rendu compte que ce truc-là, ça avait un nom en science de l'esprit, ça s'appelle la kalia, c'est-à-dire cette expérience subjective pure, qui n'est plus exprimable par des mots. Quand j'ai commencé à travailler sur mes personnages et tout, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était d'essayer au plus proche de moi de qualifier ce que c'était l'expérience intime de la douleur d'être en vie, en fait. Et donc de la conscience. Et ça m'a permis de déboucher après sur tout un tas d'autres trucs, et notamment sur la projection. Mais la projection, elle ne vient pas comme ça. Je veux dire, c'est l'empathie dont tu parlais, c'est super compliqué. Il faut partir de quelque part, en fait. Et moi, je suis parti de la souffrance. Parce que pour moi, la souffrance, mais un peu comme le bonheur, j'imagine, ou l'être heureuse. C'est le truc qui est le plus difficilement exprimable. Alors, la langue française nous donne toute une gamme de mots très poétiques pour pouvoir décrire la manière dont on se fait bouffer. Mais je crois qu'in fine, c'est surtout, avant tout, une manière de voir son intimité et la manière de décrire une intimité extérieure à nous, qui est la même que nous, mais qui est qu'on peut pas atteindre non plus, et c'est impossible de l'atteindre, quoi. Je cherche encore comment l'atteindre, et je cherche encore des moyens de l'atteindre. Et peut-être que c'est ça le point de départ pour moi, en fait. Réellement, c'est est-ce qu'on est réellement capable de créer des personnages qui existent en dehors de nous, sans que ce soit nous, en fait. Voilà.
Moi, en fait, j'ai envie de dire que moi, ça m'est arrivé un peu malgré moi. Gamine, j'étais quelqu'un qui était nourri de BD, de films, etc., comme je pense beaucoup de personnes ici. Et dont la plupart des personnages qui me plaisaient étaient des personnages masculins. Et moi, je m'en foutais d'être la fille qui se fait sauver à la 15e minute du film. Je voulais être le personnage qui est actif, quoi. Et donc, j'ai été ces personnages-là. J'ai dû me projeter. Moi, je devenais du coup un garçon à ces moments-là. Ou parfois, je devenais un monstre parce que je trouvais ça cool aussi, les monstres. c'était chouette. Et puis, il y a eu Alien et je me suis réconciliée avec les personnages féminins. Mais il y a eu. Et avec les monstres aussi, d'ailleurs. mais il y a eu pendant longtemps, en fait, surtout ce qui est littérature jeunesse, une sorte de décalage. Et qui me posait finalement aucun problème. C'était ultra naturel. C'était ultra naturel d'être un garçon. Et du coup, finalement, je vivais avec ces personnages-là déjà, avec ces projections de moi-même qui était un peu quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, effectivement, du moment où j'ai commencé à écrire des histoires, à grandir, je me suis rendu compte que toutes mes histoires venaient des personnages. Quand j'écris pour un jeu, bon, il y a l'univers, bien sûr, qui est mis en place, mais finalement, qui reste un décor. Même si j'essaye autant que possible de décrire tout ce qui va être culture, histoire, géographie et ainsi de suite, mais ça reste un décor. Tant que les personnages ne rentrent pas sur scène, il ne se passe rien, et c'est les personnages qui vont amener l'histoire. Et je sais qu'il y a pas mal de scénaristes de jeux vidéo qui se disent, bon bah voilà, on va mettre au bout d'un temps d'heure de jeu un gros retournement, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire un démon qui veut se réveiller. Tous les clichés qu'on peut retrouver dans l'écriture de scénarios de RPG, on va les retrouver dans les jeux vidéo. Et en fait, moi, ça m'emmerdait de travailler comme ça. En fait, je crois que je sais pas vraiment travailler comme ça. Et je me demande, en fait, de quel personnage j'ai envie de parler, de qui j'ai envie d'être là-dedans. Et en général, je suis plusieurs parce qu'une seule personne, c'est un peu ennuyeux. Et je vois apparaître, vraiment émerger des personnages, et des personnages qui finissent vraiment par s'imposer, par devenir clés dans l'histoire, par être vraiment des points de pivot. Et parfois, je suis même surprise. Il y a des personnages parfois que je conçois au départ en me disant, bon, ça va être juste un personnage un peu secondaire. Et en fait, ils s'imposent tellement d'eux-mêmes, leur personnalité devient tellement forte au fur et à mesure que je les écris, que je les sens vivre à côté de moi, qu'ils en deviennent vraiment centrales dans le récit, que le récit est complètement modifié pour s'adapter à leur présence et au fait qu'ils ont finalement plus de choses à dire qu'un autre personnage que je pensais au départ être peut-être plus intéressant, et qui disparaissent finalement au second plan. Donc je me laisse vraiment, quand j'écris, complètement guidée et presque envahir et dévorée d'une certaine manière par ces personnages, au point effectivement vraiment d'avoir des moments d'angoisse quand je finis un jeu, de me rendre compte que ces personnages vont devoir me quitter, en fait, et c'est quasiment insupportable, en fait. Il m'arrive d'ailleurs, quand je dois enchaîner sur un autre projet, d'avoir encore les personnages qui sont là. Et de me dire, mais non, mais eux, c'est bon, ils ont fini leur route, ils sont quelque part, ils sont sortis de moi, maintenant il faut qu'ils s'en aillent quelque part. Et c'est très 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 douloureux et très très particulier, en fait, comme rapport à la vie.
Dans ce que tu disais là, justement, sur la façon dont tu t'es mis à écrire des personnages, donc d'autres, des personnages qui ne sont pas toi, manifestement, c'était référencé par rapport à ce que tu avais vu, justement. Et donc ma question, c'est plus, cette écriture de l'altérité, vu que, par exemple, quand on parle des problèmes de biais culturels ou des choses comme ça, on conseille aux gens de s'entourer d'autres, donc de ne pas être entre soi, notamment pas être avec soi-même déjà, mais être dans des équipes qui ont des points de vue différents, etc., qui expriment tout un tas de formes, de points de vue variés. Du coup, pour l'écriture de l'altérité, est-ce que ça vient forcément de références extérieures? Enfin, à quel point les références extérieures sont inconscientes, d'une part, et à quel moment, est-ce qu'il y a un moment où ça devient conscient? Est-ce qu'il y a un moment où, en voulant écrire tel type de personnage ou tel type d'émotion, ou voilà, est-ce que, par exemple, sur les requins, est-ce que tu es allé regarder ce que les requins pensaient ou autre? Enfin, l'idée, c'est, est-ce qu'il y a un moment moment donné, est-ce qu'on se contente de ressortir des choses qui nous ont imprégnées parce qu'on a envie de l'exprimer, ou est-ce que au bout d'un moment la ressource interne n'est plus suffisante et que pour écrire l'altérité, du coup, on va la chercher chez l'autre en essayant de comprendre ce que tu dis, en essayant d'approcher la subjectivité pure dont tu parlais à travers notamment le dialogue ou à minima la documentation, mais sinon le dialogue.
Moi, je voudrais revenir sur Alien d'abord. Alien, c'est super important pour comprendre tout ça. Quoi. C'est à moi, quand j'ai vu Alien, j'ai compris l'altérité. J'ai compris le moi qui est en dehors, en fait. Moi qui sort de moi, etc. Donc, c'est un film qui est très, très, très important pour amener ça, parce que la souffrance de l'alien qui sort du ventre, elle est, et surtout pour quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant comme moi, c'est pour moi, c'est l'expression pure de ce truc-là, parce qu'il est en douleur, il est en souffrance quand il sort Alien du ventre de John Hurt. Hein, c'est, ouais. Ah, il a mal, quoi. Et donc, du coup, je crois qu'il n'est pas possible, en tout cas, de mon point de vue, je crois qu'il n'est pas possible de comprendre le requin, quoi. Je crois pas. Tout ce qu'on peut comprendre, c'est notre manière de comprendre le requin, en fait. Et on parle de biais culturels en ce moment énormément, dans l'industrie du jeu vidéo, notamment aussi dans la SF. Et d'ailleurs, on a des voix dans la SF qui commencent à venir d'autres horizons en termes de diversité, pour pouvoir parler de la souffrance de certains peuples, de l'expérience de certains peuples, et voire même de l'expérience du réel, certains types de personnes, opprimées ou pas. Et on parle aussi beaucoup en ce moment de pensée coloniale, en fait, par rapport à tous ces auteurs qui aujourd'hui disent, oh bah tiens, je vais me mettre dans la peau d'une femme noire au XVIIIe siècle, fouettée par des connards. Ok. La question, c'est pas de savoir si on a le droit de le faire ou pas et de comment on doit le faire. Le problème, c'est à quel bout du réel on approche ça, quoi. Si on approche ce bout du réel avec une capacité à être soi-même dans ce rôle-là, Je pense que c'est la bonne approche, et je crois que le jeu de rôle là-dessus, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Je n'aurais pas pu être écrivaine si j'avais pas fait de jeu de rôle. Et ça, c'est très clair. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui écrivent ou quoi que ce soit. Le jeu de rôle est un outil formidable pour comprendre cette attitude-là. C'est-à-dire que le jeu de rôle, quand on joue au jeu de rôle, on passe à travers, on va jouer une dizaine d'années, 15 ans avant d'arrêter peut-être, enfin, après il y a des gens qui continuent, mais globalement les phases, elles sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'on va commencer à jouer au début des gens qu'on a envie d'être, puis des gens qu'on déteste être, et puis après on finit par se jouer soi-même, et en général à ce moment-là, on rentre dans la vie. Ce processus-là, Il est super important pour comprendre les personnages qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager d'écrire un personnage qui soit tellement extérieur à nous. Tous ces personnages seront pas nous. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie d'écrire sur moi-même, ça ne m'intéresse pas. Même si c'est des bouts de moi et que je les fais parler comme des puppets, comme ça, je peux pas envisager que ce soit moi. Et je peux totalement envisager de me projeter dans quelqu'un qui n'a pas du tout la même expérience du réel que moi et qui n'a pas du tout le même système de référence que moi. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte sur cette personne? Est-ce que je vais raconter sur cette personne d'essayer de me mettre à sa place ou d'essayer d'envisager qui je suis à l'aune de cette expérience-là? C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est, d'un côté, il y a du respect, de l'autre côté, il y a de l'abus et il y a du colonialisme, quoi. Et il y a des gens qui disent, oui, alors en tant qu'écrivain, t'as pas le droit d'écrire là-dessus, un artiste a le droit d'écrire sur ce qu'il veut, quoi. C'est la base de l'art. C'est hyper important de comprendre ça, quoi. Parce que c'est aussi une interrogation humaine par rapport à nous-mêmes et par rapport à la manière dont on fait les choses. Et on se permet ça. Et il y a bien que dans l'art où on peut se permettre ça, quoi. Et si nous, on se le permet pas, dire c'est fini, tout le monde ne parle que de son expérience et on arrive à la littérature générale française, quoi. Et ça n'a aucun intérêt.
C'est très nombriliste, quoi.
C'est complètement nombriliste. Moi, j'aime mes bouquins, même s'ils parlent de mon intimité, à aucun moment je crois qu'ils sont nombrilistes, bien au contraire. Donc je crois que ce que tu dis par rapport à tout ça, c'est un apprentissage à pouvoir comprendre les référentiels d'expérience des autres, en fait. C'est pas tant de comprendre l'autre, même si effectivement il faut une vie pour écouter, il faut une vie pour s'ouvrir et pour entendre la souffrance de l'autre et le bonheur de l'autre. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est avoir les outils analytiques pour comprendre les contextes dans lesquels les gens font l'expérience de l'oppression ou de la souffrance. Et ça, très peu de gens font l'effort de le faire. On reste sur des archétypes de personnages emblématiques dans des contextes emblématiques. On voit ça dans la littérature, justement, qui essaye de restituer l'époque victorienne avec tout ce romantisme complètement débile qu'il y a autour de l'époque victorienne, qui était un enfer patriarcal horrible, quoi. Je veux dire, c'était infernal, cette époque, quoi. Et pourtant, on a cette espèce de truc, oui, c'est victorien, c'est beau, là, regardez les chapeaux, les belles montgolfières.
Parce qu'on aime la dentelle.
Non, mais c'est à vomir comme époque, quoi. Comment est-ce qu'on peut écrire un personnage dans une époque victorienne si on ne comprend pas intimement l'époque victorienne, quoi? Et je pense que c'est ça, en fait. Et par contre, pour le coup, comprendre une époque, comprendre un contexte, comprendre un système, y avoir des outils analytiques pour comprendre des systèmes, ça, c'est quelque chose que tout le monde fait, que tout le monde peut faire, et on n'a pas besoin d'être en pâte pour le faire, quoi. Après, réussir à mettre sa propre sensibilité à l'intérieur de ces systèmes de référence et comprendre. Évidemment, il faut lire. Enfin, je veux dire, il va pas me venir en tête de pas d'écrire sur des réfugiés si je lis pas un minimum. On a un ami en commun, Florent Morin, qui a écrit un très beau jeu qui s'appelle Bury Me My Love, qui est donc un jeu sur où on joue une réfugiée syrienne, l'Odyssée d'une réfugiée syrienne. Je vous engage vraiment à jouer à ce jeu. C'est un jeu extraordinaire. Et il s'est pris un peu de.
On joue son époux qui reçoit les messages.
On joue son époux qui reçoit les messages de la femme. C'est un époux qui est justement très mal défini comme ça. C'est très intéressant. Et justement, il met son personnage à distance de ce réfugié, mais il s'est quand même pris du flac en disant oui, mais alors, mais quitter pour parler de ça, etc. Mais le mec, il est malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir quelqu'un qui a vécu ça et qui a écrit sur le sujet. Il en a parlé, il a remis en contexte, mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de comprendre le contexte politique dans lequel cette expérience est née. C'est surtout ça son travail en tant que game designer, quoi. Et le personnage, il est né de lui-même. Après, il a été écrit par quelqu'un qui a très bien compris cette sensibilité-là, mais c'est pas du tout une sensibilité de réfugié syrienne. C'est juste une sensibilité humaine dans ce contexte-là, quoi. Et c'est là où je pense qu'il y a un effort considérable à faire, en fait, intellectuel, en fait, pas simplement sensible, surtout intellectuel, quoi. On peut pas envisager de pas comprendre le référent, en fait.
C'est vrai que comme exemple, c'est Bury Me My Love est très intéressant. Alors c'est vrai qu'il a eu l'idée de faire le jeu suite à la lecture d'un article et de l'expérience d'une réfugiée syrienne qui exprimait ce dialogue en permanence avec les gens restés sur place à travers une application type WhatsApp. Et par contre, effectivement, comme tu le dis, ils ont fait la synthèse de centaines de témoignages pour écrire tout ce qu'il y a comme texte dans Bury Me My Love.
Alors, là, pour le coup, je rejoins complètement Sabrina là-dessus, c'est que c'est pas tant l'écriture des textes que réellement toutes les situations auxquelles sont confrontées, est confronté essentiellement d'ailleurs le personnage principal, qui effectivement peut avoir plein de chemins différents. En fait, c'est pas un jeu qui est linéaire, et selon les conseils qu'on lui donne en étant son époux, elle va effectivement expérimenter différentes situations, certaines positives, d'autres au contraire catastrophiques. Et on a comme ça, au fur et à mesure, ces messages qui arrivent et qui, d'une certaine manière, nous rappellent sans arrêt qu'elle est en danger, qu'elle est dans une situation extrêmement difficile. Donc c'est effectivement dans le cadre de la création, de l'intégration de toutes ces situations-là qu'il a recueilli le témoignage de centaines de personnes qui avaient fait ce chemin-là. Par contre, l'écriture a été faite par une seule personne, en fait, sur l'écriture des dialogues en tant que tel.
Oui, par Pierre. Mais ils ont fait la synthèse de tout ce qu'ils ont pu lire sur le sujet.
Oui.
Ils sont imprégnés, finalement, de ces sensibilités-là et de ces histoires-là.
Oui, mais c'est plus que les histoires. Je pense qu'ils ont vraiment fait la synthèse du parcours lui-même, en fait, du voyage lui-même et de la manière dont on fait ce voyage et donc on comprend les voyages, les étapes politiques, en fait, de ce voyage. Et là, du coup, ça nous amène à amener un sujet qui est très important quand on parle d'écriture de l'altérité, c'est le dialogue entre le monde et le personnage, en fait. On a tendance dans la science-fiction et dans l'imaginaire à mettre les univers en avant tout le temps. Tout le temps. C'est les univers qui comptent. C'est regardez, j'ai créé un univers où la magie, en fait, c'est de parler aux chaussures. Et oh, c'est trop bien, et super. Et alors, et les chaussettes, ouh, super. Mais on s'en fout, en fait. L'important, c'est qui est dans cet univers et qu'est-ce qui se passe. Ce personnage ne peut pas exister si l'univers ne le prend pas en compte et le cocoonne pas, en fait, quoi. Et le dialogue entre les personnages et l'univers, qui permanent, et c'est un aller-retour permanent comme ça, et souvent on a tendance à le zapper, c'est-à-dire qu'on a tendance à plutôt s'intéresser qu'aux situations et ne pas envisager la sensibilité avec laquelle on peut appréhender cet univers-là, quoi. Et alors la capacité d'appréhension de la sensible, ça c'est malheureusement un écrivain qui vit pas, c'est un écrivain qui peut pas écrire, quoi. Et vivre, ça veut dire quoi? Et on arrive à quelque chose de très important, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le vivant, en fait? On peut pas envisager d'écrire l'autre si on n'est pas en vie, en fait. Si on se sent pas soi-même en vie, quoi. C'est pas possible, quoi.
Ça, et là, effectivement, il y a une part de nourriture, en fait, qu'on prend autour de nous. Alors effectivement, avec des rencontres, des gens qui vont nous raconter leur histoire, leur vécu, leur chemin, etc. Mais aussi, effectivement, à travers des livres, à travers des films, à travers... Et en fait, il devient difficile au bout d'un moment de dire, enfin moi, en ce qui me concerne, de dire bah, tel personnage ou tel élément dans mon univers vient spécifiquement de tel roman ou de telle chose qui m'a marqué. En fait, c'est une espèce de... Cette nourriture perpétuelle qui pour moi est nécessaire et une forme de boulimie même de tout ça, finit par donner après digestion quelque chose d'autre. Et c'est dans cette autre chose-là que vont apparaître mes univers ou mes personnages. Mais effectivement, je pense que c'est vivre soi-même, être incarné et être capable du coup de se projeter, de se réincarner dans tous ces personnages, c'est effectivement crucial. Mais tout ça se nourrit aussi de notre culture. Et notre culture, c'est nous qui la nourrissons au quotidien. Il y a quand même une part décisionnelle aussi d'avoir envie d'aller vers des littératures, des films et ainsi de suite.
Ça fait penser, dans votre écriture de personnages, justement, à toutes les deux, est-ce que d'une œuvre à l'autre, vous retrouvez des personnages, en fait, qui s'incarnent d'une manière potentiellement différente, mais est-ce que vous sentez des espèces d'archétypes ou des personnages qui, du coup, est-ce que votre façon d'écrire certains types de personnages, du coup, revient, et est-ce que vous êtes vigilante par rapport à ça? Est-ce que vous essayez de le combattre, ou au contraire, est-ce que ça vous amuse de voir repopper tel type de personnalité dans un personnage, finalement, qui n'est pas si différent de celui d'avant, ou des choses comme ça?
Oui, moi je sais que j'essaye de malgré tout de les faire évoluer, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je finis un jeu et que je me suis attachée, que j'ai vécu avec un personnage, j'ai parfois un peu de mal à les laisser partir, ou plus exactement les foutre dehors, parce que c'est un peu ce qu'il faudrait faire. Et parfois effectivement ils reviennent déguisés autrement, en fait. Tu vois, c'est en général je me rends compte quand même et j'essaye de les faire évoluer. Mais oui, bien sûr, il y a des choses qui reviennent, parce qu'en fait c'est des petits morceaux de nous-mêmes qui sont pas nous, mais qui sont quand même un petit peu nous et dont on a finalement peut-être encore besoin de parler. On n'a peut-être pas encore réglé tout ce qu'ils avaient à dire, quoi.
Moi, je n'ai qu'un seul personnage depuis 20 ans, quoi. Et c'est ce même personnage qui est décliné de manière de tout le temps. C'est la même. J'écris la même chose, moi, depuis 20 ans. J'écris le même livre depuis 20 ans. C'est hallucinant, en fait. Je me rends compte que je suis pas capable d'écrire autre chose que ce que j'écris, en fait. C'est très difficile, très douloureux pour moi. Des fois, j'essaye et puis je n'arrive pas vraiment. Mais parce que je pense que tout simplement, je grandis avec mes livres, quoi. C'est assez bon, il y a des choses qui sont assez perturbantes dans ce processus. Avant d'arriver à ça, je voudrais juste parler de quelque chose pour terminer sur les histoires d'univers qui m'est venu quand tu as parlé. C'est qu'il est totalement possible d'envisager la définition de l'univers après avoir fait le personnage. C'est-à-dire qu'on peut totalement envisager simplement de s'intéresser à un personnage et de construire l'univers en temps réel autour du personnage qu'il le découvre en même temps que nous, qui justifie sa sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le dialogue entre l'univers et le personnage, pour créer l'altérité, elle est pas nécessairement tout le temps en train de se dire c'est l'œuf ou la poule, quoi. On peut aussi se dire la poule et l'œuf, c'est la même chose. C'est la même entité, en fait. Et moi, mon personnage, j'imagine que, je sais pas, on peut créer l'histoire d'une chaussure qui marche et on se dit, wow, c'est une chaussure, elle est terrible, elle a perdu son lacet. Ok, bon, c'est terrible, j'ai envie de raconter le lacet, elle est tout le temps ouverte au monde comme ça, elle reçoit tout, alors les feuilles de l'art des arbres et tout. Ah, des feuilles d'arbres, c'est intéressant. Donc il y a des arbres. Hein, c'est intéressant. Quel type d'arbre? Est-ce que la chaussure, elle est faite en peau d'arbre? Ah oui, c'est intéressant. Et là, du coup, ben, on a un pont et tout de suite entre la chaussure et l'arbre, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est que on n'est pas. Vous pouvez totalement envisager de créer quelqu'un de différent sans univers et de déduire l'univers de sa différence, en fait. C'est ce que je suis clair? C'est le matin, hein. Ok. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que toi, tu parles de l'abandon des personnages, de les laisser derrière et tout. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience d'essayer de réécrire les mêmes personnage, même si c'est le même personnage, mais en tout cas la même incarnation du personnage. C'est très bien ce que tu disais, c'est des avatars en fait. C'est des avatars, et on pourrait parler des avatars en jeu vidéo d'ailleurs par la suite, ça serait intéressant en termes de projection de psyché comme ça, de psyché comme ça sur un écran. Mais c'est une projection, c'est comme si vous aviez une âme en fait qui se baladait de corps en corps, et cette âme-là, c'est un bout de vous que vous lâchez dans le monde et que vous n'êtes pas capable d'exprimer, ou qui ne peut pas s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et qui rebondit comme ça de corps en corps, et qui irradie tout autour, et qui lâche des petits bouts d'elle-même partout, et des petits bouts dégueulasses aussi, hein. Je veux dire, moi j'aime écrire des personnages que je déteste, quoi, et parce que c'est des bouts de moi que je déteste, quoi. Moi j'ai un cerveau reptilien aussi, et des fois mon cerveau reptilien il kick quand je suis fatigué ou quand je suis énervé par quelque chose, et je me mets à avoir des pensées horribles, comme tout le monde ici probablement, quoi. Et je pense que c'est une très grande hypocrisie de la part des humains de dire que l'humain est infaillible et qu'on n'a pas de pensées horribles. Non, je pense qu'au contraire, on a des choses en nous qui sont terrifiantes à explorer, et les refuser c'est pas très bon, mais en même temps les exprimer totalement et dire à quelqu'un qu'on l'aime pas parce qu'on n'aime pas sa couleur de peau, c'est pas bien, mais en même temps on peut pas s'empêcher de le ressentir si on le ressent, quoi. Et du coup, il faut travailler là-dessus. Et moi, je travaille là-dessus en permanence. Moi, mon but dans la vie, si tant est qu'il y ait un but à ma vie, c'est de devenir une meilleure personne tous les jours et d'essayer de me rapprocher au maximum de ce que je suis, sans savoir ce que je suis réellement, quoi. Je vais juste vous raconter une histoire très personnelle par rapport à ce qui s'est passé sur mon dernier roman, et je pense que ce sera un très bon exemple de ce qu'on raconte sur les personnages. C'est que moi j'ai évolué, donc mon genre a évolué au fur et à mesure de mon écriture aussi, c'est une surprise pour personne, et du coup mes personnages ont accompagné ce changement de genre et ce changement de perception aussi. Je suis passé d'un monde très très hétéronormé à quelque chose de beaucoup plus queer, beaucoup plus fluide et compagnie, jusqu'à à un moment donné interroger même la notion de genre dans mes livres et chez mes personnages. Et à un moment donné, donc quand j'ai écrit Sous la colline, c'était il y a 3 ans, je crois, 4 ans, qui était un personnage transidentitaire, donc et transgenre, enfin ça dépend comment vous placez votre curseur. C'était une projection de moi, c'est-à-dire c'était une projection de moi dans 10 ans, si jamais, ou 5 ans, si jamais j'avais envie à un moment donné de faire cette transition-là, quoi. Et quand j'ai terminé le dernier bouquin que j'ai écrit, qui est un bouquin qui entièrement constitué d'un trio de femmes, a priori 6, hein, pas forcément hétéro, j'ai écrit ce bouquin parce que je me suis dit, si je suis capable de faire exister ces bouts de moi-là, dans ces 3 personnages-là, de manière extérieure à moi, tout en venant de moi et que je leur, et que ce jugement patriarcal que j'ai en moi sur elles ne s'exerce plus et qu'elles existent par elles-mêmes, alors à ce moment-là, je saurai que ma voix, elle est là et qu'elle existe et qu'elle a le droit d'exister et que j'ai le droit d'être ce que je suis, en fait. Et non, c'est un processus qui est super intime, en fait, et de même pas de projection, de vraiment de placement, de placement d'âme. Je sais pas comment dire autrement, quoi.
Et c'est pour ça que je parlais d'incarnation.
Oui, c'est ça, mais c'est l'incarnation, c'est très juste, en fait. C'est vraiment ce dispositif qu'on met en place pour dire, bon, bah, alors elle est un peu comme ça, elle est un peu comme ça, parce que moi je suis un peu comme ça, mais aussi je suis un peu comme ça. Mais potentiellement, on est un peu comme tout, en fait, hein. Je veux dire, on peut être un, comme disait Walt Whitman, I am big, I am multiple, quoi. On est à l'intérieur de nous, on est profond. La conscience, c'est un acte profondément schizoïde, en fait, quoi. Et donc, du coup, en faisant ça, je me suis dit, OK, si jamais je me plante, si jamais ces personnes n'existent pas au moment où j'ai fini mon livre et qu'elles ne vivent pas en moi et en dehors de moi, c'est mort, j'arrête tout et je resterai ce que je suis. Et j'ai mis le point final à mon truc, et puis j'ai regardé mon livre et j'ai dit, ça va, ça marche, j'y crois. En tout cas, je me suis pas convaincu que j'y croyais. Elles existaient par elles-mêmes, quoi. Et j'ai commencé ma transition le lendemain. Et donc là, c'est pour le coup, c'est vraiment hyper important comme anecdote. Je la cite assez souvent, quoi, parce que pour moi, c'était le moment où, en fait, j'ai été dépassé par mes personnages. Et il y a beaucoup de gens qui disent dans l'écriture, oui, alors n'écoutez pas les gens qui vous disent, oui, alors mon personnage, d'un coup, il s'est mis à faire un truc et j'ai pas compris. Non, comme s'il y avait une espèce d'obsession du contrôle de la part des écrivains sur leurs personnages. Là, on est des murs, j'en les mets en place. Mais c'est pas vrai, je veux dire, tu imagines que tes personnages, ils t'échappent tout le temps, quoi.
Complètement. Et d'une certaine manière, il faut que je les laisse m'échapper, en fait. C'est même une. Je pense qu'il y a une part, effectivement, de construction intellectuelle au départ, quand on commence à simplement essayer justement de créer un contexte, de se demander ce dont on aimerait parler, etc. Et au bout d'un moment, si on ne se laisse pas dépasser et envahir, en fait, par tout ça, si ces incarnations-là, on ne les laisse pas nous échapper complètement, on finit par faire des choses qui vont être extrêmement pénibles, quoi. Et curieuse et douloureuse au final. Alors que on doit effectivement se laisser presque. Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe dans le vaudou. En fait, on doit se laisser chevaucher en fait par ces esprits. Et il y a une part effectivement très intime, très forte, très très physique finalement, de se laisser effectivement complètement envahir par un autre. Et d'être cet autre et de le laisser complètement effectivement parler, etc. Et sans crainte, avec une forme d'humilité finalement. Et je pense que c'est en étant humble par rapport à ces personnages qu'on arrive à leur laisser une vraie voix, alors qui peut être effectivement la voix d'un profond salopard ou d'un sociopathe complet ou de. C'est pas grave en fait. À ce moment-là, c'est pas grave. Et moi, j'ai besoin en fait de ça. Et à travers mes personnages, je sais que je laisse échapper effectivement énormément de choses. Et je pense que ça nourrit aussi. Et en fait, là où je me rends compte que ça fonctionne, c'est quand effectivement, une fois que le jeu est fini ou d'écrire et prêt à sortir, que j'ai des gens qui me disent j'ai été touchée par ça. Ce personnage m'a paru vrai en fait. Et là, je suis assez contente en général de ressentir ça et de comprendre que j'ai pu à un moment donner naissance à ces personnages-là.
Ouais, alors c'est super, non mais c'est exactement ça. Et souvent on parle d'universel, vous savez, j'ai pu me reconnaître dans ce personnage et compagnie, mais en fait la projection de l'écrivain ou de l'écrivaine dans les personnages, elle ne se fait pas en voulant de l'universel, elle se fait en touchant juste des choses en nous. Qu'on sait que tout le monde a en fait, mais en fait on a, ce que je vous disais tout à l'heure, on a tout en nous tous, et c'est ça en fait, on s'attarde tellement sur nos différences qu'on ne s'attarde pas sur les choses qui nous rapprochent en fait, et en fait les choses qui nous rapprochent sont bien plus nombreuses que nos différences en fait, et du coup c'est super intéressant de créer, d'essayer d'approcher ça. Mais alors la question qui se pose de manière technique, c'est qu'est-ce que ça veut dire un personnage qui nous échappe quoi, c'est parce que je veux dire, on l'écrit. On a un acte conscient d'écriture, on a un acte conscient de vie, on est capable de dire « non mais moi je ne veux pas que ce personnage fasse ça ». Tu parlais d'humilité, je vais aller un tout petit peu plus loin. Moi je pense que c'est vraiment une capacité de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, il y a ce que vous pensez qui n'est pas bon pour votre personnage et forcément ce qui est bon pour lui, quoi. C'est assez terrible à dire, et c'est terrible à concevoir, et c'est terrible à accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage va se mettre à faire des trucs dans votre tête, terribles, que vous envisagiez absolument pas, et qui va prendre, c'est des choses qui vont prendre naissance en vous, dans des terreurs. Moi, je sais qu'à un moment donné, un personnage, je sais plus ce qu'il voulait, il s'est mis à défoncer les dents des gens avec des marteaux, avec un marteau, quoi. Et je me suis dit, mais moi, c'est moi, j'ai fait ces rêves-là quand j'étais gamine, ok, très bien, mais lui, en même temps, c'est vrai qu'il a une construction de sauvagerie, etc. Mais non, mais c'est pas ça, parce que moi, je l'envisage, c'est mon héros, machin. Et à un moment donné, je me suis dit, et ça me travaillait tous les jours, et puis à un moment donné, j'ai écrit le truc, parce que je me suis dit, il faut que je le sorte, quoi. Il faut que je vois ce que ça donne si jamais il se met à... Et une fois que c'est sur la paille, une fois que c'est là, et qu'on se rend compte qu'à partir de là, on peut continuer, et là, on se dit, wow, il vient de faire ça, quoi. Et je viens de lui faire faire ça, en fait. Et j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligé de maintenant composer avec ce qu'il a fait. Alors, bien sûr qu'on peut revenir en arrière et corriger des choses, quoi. Mais en fait, la plupart du temps, on ne le fait pas. La plupart du temps, on part de là et puis on redéroule tout ça. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi d'écrire dans le jeu vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, comme c'est une production qui est extrêmement rigoureuse en termes de planification de tâches, c'est un programme. Donc à partir du moment où c'est un programme, on est obligé d'envisager des choses de la manière dont on va le faire. Parce qu'il y a 80 personnes qui vont bosser, on ne peut pas se permettre de changer un truc au personnage en cours de route. Ça veut dire qu'on écrit tout le personnage avant, quoi. Pour moi, c'est super dur. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Quand j'écris un roman, mon personnage, il peut changer complètement d'attitude et de personnalité au milieu du livre, quoi. Et donc, je réécris tout le reste si j'ai besoin de le réécrire. Mais des fois, c'est juste une déduction de ce qui s'est passé logique, quoi. C'est très difficile à faire en jeu vidéo, ça. C'est d'une grande complexité. Ça peut se faire avec une approche des dialogues. Mais en termes de structure de l'histoire et de structure de l'univers autour de la personnalité du personnage, ça coûte beaucoup d'argent. Et la plupart du temps, en production, on ne peut pas se permettre de faire ça, quoi.
Surtout dans le jeu vidéo, il y a une double. Et je pense que c'est ça, pour moi, la principale différence avec l'écriture de roman. Il y a une double mise en abîme. C'est-à-dire qu'on doit se mettre effectivement dans les personnages, ou les laisser en tout cas émaner de nous-mêmes. Mais en plus, on doit se mettre dans la peau du joueur à un moment. Le joueur qui finalement, en général, incarne un personnage relativement neutre, au moins au début, et qui va, en fonction de ses choix, influencer l'histoire. et donc influencer les personnages autour de lui. Et les personnages autour de lui vont devoir réagir à ses décisions, à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, à ses interactions avec le monde. Et donc, en fait, quand j'écris un personnage avec lequel le joueur va interagir, je lui prévois tout un champ de réaction, et donc des dizaines de dialogues que le joueur ne verra peut-être même jamais, en fait. Parce que selon la roi qu'il va choisir et la manière dont il va interagir avec ce personnage-là, son interlocuteur ne réagira, ne lui présentera qu'une seule réaction, évidemment, mais il a quand même fallu penser toutes les autres, et il a fallu écrire toutes les autres. Et c'est vraiment des milliers de lignes de dialogue. On n'écrit pas des didascalies dans le jeu vidéo, très rarement. Par contre, toute l'interaction se fait à travers, effectivement, les dialogues des différents personnages, mais il faut vraiment se dire qu'à partir du moment où on a des choix multiples, et où on a des possibilités d'impact sur l'univers comme sur les personnages, il va falloir en fait écrire tous ces dialogues que vous ne verrez jamais, en fait, qui sont pourtant là dans le programme effectivement, mais qui sont là pour répondre au choix que ferait un autre joueur. Et donc il y a vraiment une double, enfin, en tant qu'auteur ou dialoguiste en tout cas, on doit à un moment se demander qu'est-ce que le joueur va avoir envie de faire, qu'est-ce qu'il va avoir envie de dire à ce moment-là vu la situation, et après se remettre à nouveau dans le personnage en face et se dire comment je vais réagir à cette phrase que vient de me dire le joueur. Et donc on est sans arrêt d'une espèce de ping-pong mental comme ça. Et du coup, ça fait des espèces d'architecture, en fait, quand on écrit des dialogues, mais les outils que j'utilise, ça crée des arborescences complètement dingues, en fait. Et au bout d'un moment, on a vraiment un schéma qui correspond à tout le parcours possible dans le jeu, qui est extrêmement touffu. Et finalement, ce qui m'aide à éviter que ça parte dans tous les sens et que ça devienne complètement hors de contrôle, c'est les personnages qui, finalement, eux, me ramènent à quelque chose. C'est-à-dire que, justement, en les laissant s'exprimer, en les laissant faire ce qu'ils ont à faire, il me ramène à oui, lui, de toute façon, finalement, quoi que le joueur dise, il aura envie d'être comme ça, ou il va faire ça à un moment, ou il va trahir, ou il va, j'en sais rien, partir, ou il va. Donc, c'est finalement eux, par leur action, qui vont me permettre de ne pas partir dans une arborescence infinie, de finalement, si le joueur fait ça, puis fait ça, puis fait ça, puis fait ça, on va arriver à un truc qui est là, mais il aurait pu faire tellement quelque chose de différent qu'on arrive à quelque chose qui est plus maîtrisable, en fait. L'univers et essentiellement les personnages me permettent de recadrer ça, parce que même si, bien sûr, on réagit aux personnes qui nous entourent, on n'est pas non plus complètement malléable, et les personnages sont finalement pas aussi malléables que ça aux réactions du joueur.
Alors, par rapport à ce que vous avez dit toutes les deux, j'ai deux réflexions sur ça, sur ce qui rapproche ce que tu disais tout à l'heure, Sabrina, sur le lâcher prise sur les personnages. Et donc là, c'est marrant parce que quand tu disais, il y a le côté, oui, les personnages, on doit vraiment les lâcher. Et oui, un personnage peut faire des choses sans qu'on les ait prévues. Et pour moi, j'aurais tendance à penser que ça vient aussi de la cohérence de l'univers. En fait, on imagine ou des interactions, enfin, qu'on imagine différents éléments, on imagine plusieurs personnages, on imagine un univers qu'on a peut-être défini au fur et à mesure que notre chaussure avait perdu son lacet et tout ça, peu importe. Mais et en fait, c'est en décrivant des situations, on se retrouve à se dire, ok, mais vu que j'ai écrit ça, ça et ça, ou j'ai imaginé ça, ça et ça, finalement, la contingence de ces éléments-là va générer une situation que je n'avais pas prévue, parce que le système est trop complexe, et c'est, pour moi, il est un peu là, le personnage qui nous échappe. Donc ça rejoint ce que tu dis, là, avec le fait que ça peut être l'univers ou les choses préécrites sur certains personnages qui te permettent de te ramener à une logique, mais qui contraignent quelque part l'écriture des personnalités et de ce en quoi elles peuvent nous échapper. Et donc est-ce que vous ressentez ça? Et l'autre, est-ce que donc il y a cette espèce de souci de cohérence qui vient rattraper un peu mais qui explique un peu l'évolution autonome des personnages. Et l'autre élément qui m'a fait penser à quel j'ai pensé quand tu parlais, Sabrina, c'était le fait que on a tout en nous. Est-ce que tu considères qu'on est un peu des espèces de cellules souches psychologiques, qu'on est complètement spécialisé par la culture et la construction sociale, et que derrière, en cassant ça, en fait, et que c'est un effort du coup de casser tout ça pour retrouver finalement et être capable d'exprimer n'importe quelle altérité, puisque finalement, ce qu'on est n'est que construit et qu'on peut le déconstruire et retrouver quelque part l'espèce de source. Tu disais qu'on avait tout en nous. Donc,
oui, moi j'appelle ça la source vive. Oui, moi je crois absolument à ça. Alors après, bon, c'est une croyance personnelle par rapport à mon angle de vue. sur la réalité. Hein. Je dis pas que c'est une vérité. Je pense pas que ce soit une vérité absolue métaphysique. Quoi. J'en sais rien. Mais oui, j'aime bien cette idée de code source en fait. Mais même au niveau génétique, je pense que c'est un peu ça. On est quelque part, on est des amibes améliorées. Quoi. Et on est des pâtés biologiques. On est des pâtés biologiques définis avec un tout un tas de traits dysmorphiques à un moment donné, taillés par la société, comme ça, coupés par la société, coupés par le monde autour de nous, pour rentrer dans des cases en fonction de nos affinités et en fonction de notre héritage. Quoi. Mais à la base, on est juste des pâtés biologiques, en fait. Quoi. Et cette hyper-spécialisation de l'homme, et donc l'arrogance qui va avec ça, notamment, hein, cette incapacité qu'on a à penser qu'on est autre chose que ce qu'on est, c'est assez complexe à appréhender pour... Pour moi, j'ai du mal à voir pourquoi on s'empêche de faire ça en fait. D'où vient ce fascisme de l'identité? D'où vient ce fascisme de cette notion qu'on a d'être autre chose que tout en fait. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu dans les mondes virtuels, les mondes virtuels ont un impact si fort en fait. Avant d'arriver là-dessus, je voudrais juste terminer sur l'idée de ta cohérence. La cohérence, c'est la question fondamentale. Mais qu'est-ce que c'est que la cohérence quoi on parle de quoi concrètement? On parle de la cohérence, on parle de l'union des contraires. C'est-à-dire qu'on parle de la manière dont se réalise le monde dans le paradoxe. C'est-à-dire comment est-ce que des choses qui en apparence paradoxales fonctionne entièrement pour créer un univers, un écosystème persistant autour de nous, où tout se répond et où tout a, semblerait-il, un sens. Mais ça, c'est la fiction. Parce que le sens que nous, on met dans le réel, c'est un sens que nous, en tant qu'humains, apportons au réel. Le réel n'a pas ce sens-là de facto, quoi. Sinon, ça serait essentialiste de dire quelque chose comme ça. Et moi, je ne suis pas quelqu'un d'essentialiste. Donc, j'ai du mal à accepter ce terme de cohérence, en fait. Pour moi, au contraire, moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre la décohérence avant tout, quoi. C'est-à-dire de comprendre comment est-ce que les unions se défont, en fait. L'union elle-même, le mystère de l'union et le mystère de l'union paradoxale, c'est le grand mystère de la poésie depuis toujours, de la spiritualité et donc de la société et de la politique. Comment réunir des gens qui votent à droite et qui votent à gauche? Comment réunir l'homme et la femme? Comment finalement opérer ce retour du binaire à l'être total platonicien? Enfin, des choses comme ça, quoi. C'est dur ce matin, là. Qu'est-ce que je dis? Faut que j'arrête là. Et du coup, pour moi, cette décohérence-là, plutôt ce déchirement-là, cette séparation qu'on a avec le monde réel, pour moi, c'est ça qui se passe en fait. C'est l'humain, on lui apprend à faire ça en fait. On lui apprend à se séparer tout le temps, quoi. On lui apprend pas à réunir, quoi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce qui nous ressemble. Et c'est ça, on est dans une société, on est dans une société depuis 3000 ans, quoi, qui nous apprend à séparer les choses, quoi, à bien les trier. Alors attention, on va classer les papillons en fonction de la place qu'ils ont par rapport à la fenêtre. Là. Alors celui-là, il est très loin de la fenêtre, celui-là, il est plus près de la fenêtre. Alors c'est pas le même papillon, hein, attention, quoi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Et du coup, comment vous voulez qu'on arrive à penser l'autre comme ça? Enfin, c'est pas possible, c'est très très difficile. C'est uniquement, c'est le retour à la réification du monde en nous, elle est d'une complexité incroyable. La fiction se permet cette cohérence-là. La fiction se permet cette espèce d'homogénéité d'univers où tout a un sens. Et souvent, même d'ailleurs dans les jeux vidéo, tout a un sens par rapport au personnage principal. Quoi. C'est un truc de fou. Quand vous allez voir, quand vous êtes dans n'importe quel jeu, à part visiblement dans Red Dead Redemption 2, là, où les choses se passent en dehors de vous, mais vous êtes le centre de l'univers. Tout le monde parle de vous, tout se passe autour de vous, les missions, elles ont rapport à ce que vous avez.
Le monde est en suspens tant qu'on ne décide pas de faire quelque chose.
Philosophiquement, c'est quand même assez génial d'envisager ça. Quoi. Et donc vous voyez bien que la cohérence, finalement, vous ne la portez qu'en bulle de réalité. Quoi. C'est une bulle de réalité que vous transportez avec vous dans un monde qui est totalement incohérent autour, qui d'ailleurs, en jeu vidéo, n'existe pas, il n'est même pas calculé. Et tout ce qui arrive en termes narratifs et tout ce qui arrive en termes sensibles n'a d'impact que parce que ça rentre dans votre bulle. Bon, alors là, je veux dire, on va s'arrêter là parce que philosophiquement, on peut aller très très loin par rapport à ça. Mais à partir du moment où on a compris ça, vous voyez que, waouh, tout est bullshit, quoi. On vit dans un océan de bullshit, là. C'est hallucinant, on nage dans le bullshit, mais tous ensemble, là, bien, et on arrive à se convaincre qu'en fait, ça a du sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas parce que ça a aucun sens que ça n'a pas valeur de vérité ou ça n'a pas valeur de vie. Peut-être que la vie n'a pas de sens et que justement, c'est là-dedans qu'on peut trouver. Bon. Je referme la parenthèse philosophique. Pour parler concrètement de ta deuxième proposition, qui était...
Ah, je te demandais juste si on passait, mais tu as partiellement répondu avant sur le côté, est-ce qu'on n'est pas des comme en biologie, justement, oui, donc, mais ça, psychologiquement, des cellules souches,
non, mais
tout ça.
Avant, tu avais dit autre chose.
Ah, bah, c'était la cohérence.
Non, mais j'ai tout dit.
T'as répondu aux deux.
Tout à fait. J'ai répondu aux deux, c'est cool. Oui, donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était. J'ai pas oublié. Ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on a un impact aussi fort des mondes virtuels ? Le monde virtuel, c'est qu'importe la projection, qu'importe l'univers, qu'importe, etc. Tout ce que c'est un mapping de la psyché des joueurs ou des joueuses sur un avatar visuel. Là, ce que vous avez à l'écran quand vous jouez à un monde virtuel, ce qui est composé de votre écran, c'est une tapisserie, un canevas de votre psyché. C'est-à-dire que vous allez incarner visuellement. C'est ce que j'appelle la profondeur de la surface. Vous allez incarner visuellement toute la complexité de votre être sous des formes de surface et de texture et d'angle. C'est absolument passionnant. C'est complètement génial parce que ça vous fait comprendre la manière d'appréhender un corps. Et là, on est complètement dans l'écriture de l'altérité. D'appréhender un corps avec sa post-prio-perception, prioception.
T'as pas retrouvé ?
J'ai pas retrouvé. Quelqu'un connaît ce terme ? Yes, le voilà. Et chaque fois, je l'oublie. Et qui est donc globalement la capacité de se projeter dans les limites d'un autre corps ou d'un autre espace. Quoi. Imaginez que vous êtes plus vaste que vous êtes ou que plus mince vous avez un autre sens de gravité. Ça, c'est des choses qui sont passionnantes à étudier, notamment quand on travaille sur le genre et que les centres de gravité se déplacent. Ça, c'est des choses qui sont super incroyables. Mais donc, du coup, cette projection de psyché que vous faites à l'écran dans cet avatar d'angle et de surface, cet acte-là, qui est non scénarisé, il est essentiel pour comprendre la manière dont on écrit l'altérité, en fait, et tout le monde le fait en ce moment dans les mondes virtuels, et je suis très contente de ça. Moi, j'ai toujours été très touché par les mondes virtuels et par la manière dont les gens réussissaient à se projeter dans des coquilles vides comme ça. Et sans histoire concrète, parce que finalement les quêtes sont écrites pour tout le monde, en fait, tout le monde peut les pratiquer de la manière dont on a envie de les pratiquer. Mais nous, on a ce côté, surtout dans les jeux en ligne, où on est capable d'interagir avec d'autres personnes, de prendre un bout de nous, de le mettre dans un autre corps, dans une autre spécialisation. Alors, je vais être clair, je vais être druide, je vais être guerrier, je vais faire des trucs comme ça. On revient au jeu de rôle. Cet acte-là fondamental que les enfants apprennent à faire très tôt et qu'on casse tout de suite dans l'enfance. C'est la clé de tout, c'est la clé de tout ça, quoi. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas envisagé comme étant un outil d'éducation à l'autre aujourd'hui, quoi. Mais un outil d'éducation à l'autre, à la connaissance, à la réalité du monde, à l'expérience de l'autre. C'est essentiel. Enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi le jeu de rôle n'est pas un outil dans les classes, quoi. Moi, j'enseigne avec le jeu de rôle, j'enseigne à des enfants avec le jeu de rôle. C'est un outil formidable, c'est incroyable. Et les gamins, ils adorent parce qu'ils veulent.
Et puis c'est tellement naturel. Enfin, tous les gamins, on est tous passés à un moment par un âge où on s'est dit, tiens, on dirait que j'étais le gendarme, on dirait que j'étais le voleur. Enfin, c'est des choses qu'on a tous fait, gamins, à un moment ou à un autre avec les copains dans la cour de récré, quoi. Et donc, le jeu de rôle, c'est probablement un des éléments de jeu les plus naturels à l'enfance, en fait. Donc, l'enlever à ça, c'est vrai que c'est assez étrange. Et c'est bizarrement quelque chose qu'on retrouve bien plus tard dans l'éducation ou dans certaines écoles supérieures. On va utiliser le jeu de rôle pour essayer de simuler certaines situations. Alors, en général, c'est les jeux de rôle les plus chiant, hein, des trucs pour se mettre dans de la vente ou des trucs comme ça, enfin vraiment le genre de machin qui sont super moins fun que de jouer aux gendarmes ou aux voleurs dans la cour de récréation, quoi.
Et c'est les adultes qui ont peur de ça. Les gamins, ils savent très bien faire la distinction entre le réel et la fiction, ils savent très bien que c'est une projection de leur terreur et c'est une projection de ce qu'ils ont envie d'être et ce qu'ils ne peuvent pas être. Ils font très bien ce distinguo là c'est les adultes qui comprennent pas, et c'est pour ça que le truc est cassé, parce que les adultes disent, mon dieu, ils vont se prendre pour un... Moi, je me souviens, une fois j'étais dans une bagnole avec une grand-mère, et puis elle me dit, vous faites du jeu de rôle, alors il paraît que c'est dangereux. Oui, alors c'était l'époque, dans les années 90, il y avait un gars qui avait agressé sa maîtresse en criant Aragorn avec un couteau qu'il avait volé à la cantine. Tu sais, les couteaux pourris là, en inox qu'il avait volé à la cantine, quoi. Et tu lui dis, non, c'est Elendil que tu dis, c'est pas Aragorn, arrête de dire n'importe quoi, quoi, tu vois. Et du coup, c'est drôle de voir à quel point cette nécessité incroyable de comprendre l'autre et de partager avec l'autre des choses nous est complètement refusé dans la société, alors que les gamins vont aller récupérer dans la littérature, heureusement, mais que Dieu bénisse la littérature.
Mais quelque part, donc, le jeu de rôle et tout ça, c'est vivre l'altérité pour pouvoir
vivre tout simplement, quoi. Okay.
Ouais. On va profiter des quelques minutes qui nous restent pour prendre des questions, s'il y en a. Il y en a.
Oui, bon, excusez-moi, et le jeu vidéo.
Alors, Florent, tu as presque posé cette question-là, du coup, je vais la reposer. Est-ce que pour écrire l'altérité, le mieux, c'est pas d'écrire avec d'autres et donc de pratiquer l'écriture collective ?
Moi, je dois avouer, je sais pas pratiquer l'écriture collective. Pour écrire mes histoires, encore une fois, je me nourris de plein de choses, y compris de rencontres, de gens que pour certains j'adore, pour d'autres que je déteste, de rencontres que j'ai faites et ainsi de suite. Mais j'écris pas avec eux. D'une certaine manière, si, puisqu'ils sont. À partir du moment où on rencontre les gens, je pense que d'une certaine manière, ils finissent par s'intégrer en nous. Mais c'est voilà, on n'écrit pas à quatre mains ou à six mains ou et ainsi de suite, quoi.
Alors, moi, j'ai écrit à quatre mains, j'ai écrit pas à six mains, et là, j'écris à huit mains en ce moment. Enfin, j'écris. Alors, on va s'entendre sur ce que ça veut dire écrire. Il n'y a que moi qui écris, mais par contre, ça ne veut pas dire que j'ai pas des gens autour de moi dans le studio dans lequel je travaille en ce moment. On est quatre ou cinq. C'est moi qui écris. Mais je me nourris de tout ce que les autres me disent tout le temps, en permanence, sur ce que j'écris. C'est-à-dire que j'ai un outil en ligne, tout le monde le lit, et puis on me met des patchs, on me met des trucs. Hein. Il y a beaucoup de respect, c'est pas du tout, j'ai pas envie du tout que ça se passe comme ça. C'est des espèces de souhaits qui sont prononcés, et parfois, des fois, c'est des expériences personnelles. Par exemple, ben, moi, j'ai jamais fait l'expérience d'être enceinte, par exemple, et ben, moi, j'ai quelqu'un dans mon studio qui était enceinte, qui m'a expliqué des choses que je ne connaissais pas sur la question. Oui, mais alors là, tu vois, mais en même temps, c'était son expérience personnelle. Ça n'a pas valeur d'universalité, et ça peut très bien ne pas s'appliquer à quelqu'un d'autre. Il y a des tas de manières de vivre la grossesse, en fait. Mais par contre, moi, je vais me servir de cette expérience-là pour essayer de construire une expérience à moi qui soit une forme de... Donc, d'une certaine manière, c'est hyper agréable d'écrire avec d'autres personnes quand il y a énormément de respect, quand il y a énormément de goûts, mais il y a toujours, au final, qu'une seule personne qui écrit. À quatre mains, c'est différent. À quatre mains, on peut. À quatre mains, on peut, c'est possible quand on trouve des dispositifs narratifs intéressants, quoi. Genre des trucs épistolaires ou des chapitres alternés. Moi, j'ai beaucoup fait ça avec Colin. On a écrit pas mal de trucs ensemble. Voilà, ça fonctionnait assez bien. Il faut bien connaître l'autre, en fait. Il y a des fusions d'auteurs et d'autrices qui sont assez fortes en général, mais il y a toujours le problème, c'est qu'il y a toujours des problèmes de bouffe entre les gens et tout. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on met de l'ego là-dedans, est-ce que le texte on souffre énormément? C'est très complexe. J'ai pas envie de te dire non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. J'ai envie de te dire tout est possible à partir du moment où c'est dans le respect et dans l'écoute, en fait. Mais c'est assez rare, en fait, puisque on est des créatures d'ego, quoi. Voilà.
Tout à fait d'accord.
Bonjour, merci. Déjà, parce que j'avais noté des questions au fur et à mesure, il y a plein de questions là. Et vous y avez presque répondu au fur et à mesure. Donc, c'est merveilleux. J'avais quand même, malgré tout, une question. Vous disiez, Sabrina Calvaux, que c'est le moi en dehors. Quand vous créez un personnage, ouais, c'est vous, mais vous essayez de le faire vivre en dehors de vous. Ouais. C'est ça. Et donc, dans ce processus, il y avait de la souffrance. Mais en fait, je suis en train de me faire la réflexion, est-ce que c'est pas quand on accouche de quelque chose qu'on veut vivant, est-ce que c'est pas tout le temps dans la souffrance ? Une femme un jour m'a dit, c'est très bizarre, mais une femme un jour m'a dit, en parlant de l'adoption notamment, elle me disait, une femme accouche toujours dans la souffrance. Et que ce soit par voie naturelle ou par adoption, j'allais dire administrative, mais aussi affective par la suite. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous ressentez une sorte de souffrance ? Vous partez du point de l'oppression et ce genre de choses, parfois, pour créer vos personnages, si j'ai bien compris ? Voilà, donc c'est ça ma question. Est-ce que vous souffrez quand vous créez des personnages ?
Non, c'est comme quand je suis désolé, je vais dire une horreur, mais c'est comme quand on fait caca, quoi. C'est de la souffrance et en même temps c'est cool, quoi. Tu vois ?
Mais tu sais que c'est un peu le même principe dans l'accouchement, hein. C'est de la souffrance, mais après c'est cool.
C'est ça. Enfin, j'ai pas envie de trivialiser l'oppression ou quoi que ce soit, que les choses soient. Attention, hein. J'essaie de. J'ai pas envie non plus de tomber dans le cliché de l'écrivaine sous la souffrance à l'écriture. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est juste que moi j'ai bien aimé comment vous l'avez formulé. La vie, c'est ça. La vie se fait dans la douleur de l'existence et dans la douleur de ressentir l'air et de respirer pour la première fois en fait. Et la première fois qu'on respire, c'est toujours dur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours violent, quoi. Et après, on se sent bien. Et je pense que c'est parce qu'on a envie de se sentir bien qu'on est prête à faire ce passage-là, en fait. Mais c'est pas une condition de souffrance et ni quelque chose qui est souffert. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vivre et je suis très privilégié et je suis très heureuse dans ma vie, quoi. J'ai pas de besoin de souffrir. J'ai pas de choses à expier. Non, mais j'ai pas de choses à expier. J'ai pas de choses à prendre sur moi. Mais par contre, moi, j'aime bien la manière dont vous le dites. C'est super intéressant, quoi. Je pense pas que la vie puisse se faire sans fragilité, en fait. Plus la nuance, elle est plus là, en fait, sans tomber, sans boiter, sans se faire mal, sans comprendre qu'il y a des choses qui font mal et des choses qui font pas mal, quoi. Alors je sais pas si la souffrance c'est le bon mot, quoi. Une forme de vie, je sais pas, on est dans la calia, là, tu vois. Là c'est de la calia pure, là c'est on arrive au moment où on peut plus rien dire, en fait, quoi.
Une dernière question rapidement.
Oui, excusez-moi, j'avais deux questions, donc je vais en poser qu'une seule, c'est pas grave. En fait, c'était juste pour savoir, pour faire simple, je suis atteint d'un syndrome qui m'empêche d'être empathique avec les gens ou qui me fait trop empathique. Et du coup, c'était pour savoir, est-ce que vous pensez que c'est possible d'écrire l'autre sans comprendre l'autre dans la réalité, c'est-à-dire d'être capable de comprendre des personnages parce qu'ils sont entre guillemets plus simples que des humains, sans comprendre des véritables humains. C'est-à-dire. C'est compliqué. Excusez-moi.
Alors déjà, peut-être qu'il ne faut pas parler réellement de compréhension, parce que le mot compréhension est quelque chose de très construit, intellectualisé. C'est pour ça que je parlais encore une fois plus d'incarner, de se mettre dedans. Et je pense que la seule réponse que je vois, c'est celle qu'a fait Sabrina un peu plus tôt, c'est le fait que il faut se rapprocher des points communs dans ces cas-là, vraiment se dire que, encore une fois, on est tous le pâté, comment t'appelais ça, le pâté cellulaire ou un truc comme ça, le pâté d'amibe, et se rappeler qu'on est ça avant toute chose, et à partir de là, essayer de se demander comment on serait si on avait vécu ça ou si on était dans tel ou tel contexte. C'est uniquement comme ça, je pense, qu'on peut y arriver dans ce cadre spécifique que tu viens de décrire.
Vous venez m'ouvrir un champ de pensée. Je me demande si c'est pas plus facile, en fait. Mais je me demande. Il y a en sciences cognitives, il y a un principe de projection dans des formes simples qui est hyper fort, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus facile de projeter des émotions sur des personnages qui n'expriment que très peu d'émotions en termes de visuel que sur des choses qui sont très très représentatives en termes d'émotions. Par exemple, c'est plus facile de projeter une émotion sur des personnages de Tintin que sur des personnages dans les réalités virtuelles qui sont super animés, avec tout un tas de mouvements faciaux et compagnie, quoi. J'essaie pas de répondre à votre question, hein, parce que j'ai pas les outils encore pour comprendre vraiment ce que vous êtes en train de me dire. Mais par contre, je suis en train de me poser moi-même la question de me dire, est-ce que c'est pas plus simple quelque part d'arriver à une forme de pureté du modèle qu'on a envie de transcrire et de projeter sur cette pureté quelque chose à nous de très complexe, de très chaud, de très vivant, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de très chaud et très vivant en face et d'en plus le réchauffer encore avec notre émotion et notre empathie. Mais je ne sais pas, en fait. C'est des processus que moi j'ai internalisés, donc je ne peux pas savoir exactement. Mais vous, comment est-ce que vous vous sentez ça? Enfin, est-ce que vous avez à un moment donné posé la. Est-ce que vous écrivez?
Oui, j'ai écrit 3 livres à l'heure actuelle. Comment je vis ça, entre guillemets? C'est juste que je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas capable de comprendre qu'ils ont une opinion différente. C'est tout.
Mais est-ce que c'est une question d'opinion ou est-ce que c'est plutôt une question d'expérience, en fait?
C'est une question d'opinion et d'expérience. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas capable. Si vraiment il y a une personne que je ne connais pas depuis, disons, 10 ans, que je ne connais pas tous ses cheminements de pensée, tout ce qu'elle a traversé, je ne suis pas capable de comprendre ses réactions face à telle ou telle situation. C'est un peu compliqué.
Vous allez être un super écrivain, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, quoi.
Oui, il faut qu'on y aille. Bon, merci beaucoup à tous d'être là.
Merci.
Et merci Sabrina et Jeanne.